Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h06, on est ravis de vous retrouver pour les grandes gueules du sport, votre rendez-vous du week-end de 9h à midi. Et si vous avez raté la première heure, le podcast des GG est disponible dès maintenant pour entendre notamment notre débat sur l'équipe de France et puis l'apparition de Jean-Luc Roy pour parler de Lewis Hamilton. Les GG de ce dimanche, Sarah Pitkowski, Sophie Camus, Stephen Brun et Simon Dutin. Tiens, il n'y a que des S. C'est rigolo. Dans 30 minutes, on retrouve un homme en colère.
Tu viens de découvrir un instant.
Ouais, un instant. Ouais. Ah, pourquoi tu le savais, toi ? T'avais fait le rapprochement ?
Non, vu que je trouve pas ça très intéressant, je me dis,
c'est rigolo. Sarah, Sophie, Stephen, Simon, c'est marrant. Et que des S. Bref.
C'est François.
voilà, ça marche pas.
Cherchez un truc.
Dans 30 minutes, on retrouve un homme en colère. Mais il est vraiment, vraiment en colère. Je peux vous l'assurer, Pierre Amiche, parce qu'on a touché aux valeurs de l'Ovalie. Et quand on touche aux valeurs de l'Ovalie, ça va pas du tout.
Les fameuses valeurs
de l'Ovalie. Il nous dira pourquoi il est en colère. À 11h, le bras de fer des GG avec la NBA qui diffuse les matchs de la nouvelle star du basket français, Victor Wembanyama, avec Boulogne-Levallois. Est-ce que c'est anecdotique ? Est-ce que c'est exceptionnel ? Les GG ont déjà choisi leur camp. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire 32-16 pour réagir à ce qu'a dit une GG ce matin. C'est la séquence que vous connaissez, les GG et vous. On vous donne la parole à 11h45, le 32-16. Déjà ouvert, bien sûr. Et puis dans les GG, on vous propose aussi de rejoindre la course virtuelle de la Route du Rhum sur Virtual Regatta. Avec le bateau RMC. Le bateau RMC qui est rouge et noir, il est magnifique. Alors pour participer avec nous, vous allez sur le site Virtual Regatta ou sur l'application Virtual Regatta Offshore. Vous entrez le code RMC et ça vous permettra d'accéder à la course privée de RMC pour cette route du Rhum qui débute le 6 novembre, la semaine prochaine.
C'est qui le skipper du bateau RMC?
C'est skipper virtuel.
Je sais, mais il y a bien quelqu'un quand même.
C'est Christophe Cessieux, je crois.
Ah.
Ça te fait rire.
On n'est pas sûr d'arriver à bon port.
On va être dans les cailloux très rapidement. Bon. On l'embrasse, Christophe. Mais d'abord, les GG passent la seconde. C'est l'homme au double prénom qui a peut-être le plus galéré que les autres à se faire un nom.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Connaissez-vous Gilles Simon ? Cette année, il gagne 3 tournois de tennis, bat le numéro 1 mondial.
Les profs, celui-ci, c'est bien amené.
C'est la France qui gagne.
Gilles Simon aussi.
J'aurais été un coéquipier exemplaire.
Ça fait du bien. Et ça va faire du bien à tout le tennis français.
On n'attendait pas que je sois là. Donc quand je suis dans les 10, la conclusion logique, c'est « lui, il a optimisé son tennis ». Non, c'est faux aussi. C'est juste que votre attente, elle n'était pas bonne déjà à la base. Come on !
Putain de champion.
Gilles Simon qui a été invité par les organisateurs pour participer au tournoi de Paris-Bercy qui débute demain. Il affrontera Andy Murray au premier tour et ce sera peut-être donc le dernier match de sa carrière. À 37 ans, il va prendre sa retraite cette année après 20 ans sur le circuit. Gilles Simon qui faisait partie de la bande des quatre avec son gars, avec mon fils et avec Gasquet. Et pourtant, il a eu le droit à son lot de critiques, parfois sur son jeu jugé trop défensif et sans prise de risque. D'où cette question. Les GG, musique qui fait peur, spécial Halloween. A-t-on été trop injuste avec Gilles Simon ? Oui ou non ? Simon Dutin.
Oui.
Sarah Pitkowski.
Oui.
Stephen Brun.
Non.
Sophie Camoun.
Non.
Ah, avant de débattre, j'appelle un homme qui connaît par cœur la carrière de Gilles Simon, Eric Salio, qui est avec nous dans les GG. Salut Eric.
Bonjour, ça commence par S. Salut.
Bonjour Eric. T'as remarqué ?
Ouais. Attends, je réfléchis. Alors, quelle trace, Eric, va laisser Gilles Simon dans l'histoire du tennis français ?
Quelle trace ? Celle du prof. C'est le surnom qu'on lui a très vite donné sur le circuit. Mais on pourrait presque bifurquer vers chef de gare, parce que...
Oh. Il a fait dérailler tous les meilleurs joueurs du monde. C'est qu'il a beaucoup d'intelligence sur le...
Ouais, il y a beaucoup d'intelligence. Et Gasquet dit juste, Gilou a battu tous les cadors. Nadal chez lui en Espagne en 2008 à Madrid. Bon, c'était en indoor, faut préciser. Novak Djokovic, Roger Federer deux fois, toujours en 2008, sa grande année. Gilles Simon, moi je l'ai personnellement découvert à l'Open d'Australie en 2006. Il était alors 123e mondial. Il venait d'éreinter Nicolas Massou, le Chilien, en 5-7. Et à la sortie du cours, ébahi, Guy Forget avait dit cette phrase, ce type est un génie. On apprend que le génie sèche volontiers la salle de muscu du CNE. Mais question tactique, c'est un enfer à jouer. Deux autres faits d'armes, toujours à Melbourne. En 2013, il écœure Gaël Monfils, 8-6 au cinquième set, avec au milieu de la bagarre un échange à 71 coups de raquette. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Trois ans plus tard, avec des balles cotonneuses à mi-court, il pousse Novak Djokovic à commettre 100 fautes directes. J'ai bien dit 100 fautes directes. Le Serbe a cru ne jamais pouvoir se dépatouiller de ce sparadrap. Le petit point noir de la carrière de Gilles Simon, bah c'est Cédric Pioline qui l'a cerné.
Grand Chelem, Coupe Davis, c'est pas là où il a toujours, on l'a vu toujours sur son meilleur niveau. Puis il y a eu l'ombre finalement d'une certaine manière des autres qui étaient peut-être aussi plus expressifs dans leur jeu, dans leur personnalité.
C'est pas faux. Mais concernant la Coupe Davis, moi je vais ressortir quelques vieux dossiers. Lors de la demi-finale 2010 en Serbie, c'est lui qui aurait dû aller au combat lors du cinquième match décisif face à Viktor Troicki. Mais Guy Forget, qui avait décidé que c'était le destin de Mikael Laudra, ignorait que le Serbe avait perdu 4 fois contre le Français sur le circuit. Gilles Simon aurait pu le ramener, mettre le feu au vestiaire. Il s'est tu, ravalant sa déception. Cas sensiblement identique en 2014, lors de la fameuse finale France-Suisse à Lille-Jo, où Fritz Onga souffrait du bras, mais il avait été maintenu dans les 4. Et c'est Gilles Simon qui avait occupé la place du cinquième homme, alors qu'il aurait pu rendre de précieux services. Ce sont ces deux cicatrices bleues, deux décisions de capitaine qui auraient pu faire basculer sa carrière, lui faire prendre la lumière. Mais bon, avec 14 titres, une demi-finale au Masters, un salaire d'argent en 2017, Gilou a réussi une remarquable carrière et personne ne doute qu'il deviendra coach un jour, un coach pas comme les autres parce que le prof, il est capable de parler pendant des heures à ses élèves.
Merci Eric. Eric, tu restes avec nous et vous avez remarqué, en tennis, on dit toujours les surnoms Gilou, tout ça. Voilà, ça c'est spécial. Hein, c'est marrant. Hein.
Roger,
Novak, tout ça, on est tous copains. Hein. Rafa.
Bon.
Bon, merci Eric. En tout cas, tu vas arbitrer ce duel. Duel terrible entre Simon et Sarah ensemble contre Stephen et Sophie. Sophie, je te donne la main. Toi, tu as dit non. On n'a pas été trop injuste avec Gilles Simon.
Non, peut-être qu'il aurait effectivement mérité davantage de reconnaissance, mais je dirais pas que c'est injuste. Pour moi, c'est pas injuste. C'est-à-dire que effectivement, il a probablement pas eu la reconnaissance qu'il méritait, mais je vais pas parler d'injustice. Je veux dire, il a battu tout le monde et on l'a dit. Il a été sixième mondial, c'est magnifique. Mais il a jamais fait mieux qu'un quart de finale en Grand Chelem. Il a jamais fait mieux qu'un huitième à Roland. Il a jamais été dans le dernier carré. Mon fils a fait une demi à Roland, Tsonga a fait une demi à Roland, à Wimbledon aussi. Je veux dire, la notoriété, la popularité, elle arrive aussi sur des coups d'éclat lors des grands tournois, et notamment à Roland-Garros pour nous Français, plus que sur un classement mondial. Et quand vous m'avez annoncé le thème de ce débat, je me suis dit, mais en fait, il représente quoi, Gilles Simon ? Pour moi, en tout cas, c'est un garçon, justement, qui manque de coups d'éclat, qui n'a pas beaucoup d'aspérité, qui a été un peu écrasé par la personnalité des trois autres. Peut-être que s'il avait eu sa carrière à un autre moment, on en aurait davantage parlé. Mais Tsonga, quand il est sur le terrain, il dégage une force, une puissance. C'est un bonhomme, quoi. Mon fils, il est spectaculaire. On attend le moment où il va plonger. Gasquet, il a un revers qui fait rêver tout le monde. On le suit depuis qu'il est tout minot, en se disant à quel moment il va faire des merveilles. Simon, franchement, il est difficile à décrire. Et quand tu lis des choses sur lui, tu lis toujours qu'il fait déjouer son adversaire, qu'il est chiant. Et en dehors du terrain, il n'aime pas les interviews, il n'aime pas être dans la lumière. Quand il a sorti son bouquin il y a 2 ans, il a quand même dit qu'il n'avait pas donné d'interview depuis 5 ans. Donc, j'ai le sentiment qu'il ne fait rien non plus pour se rendre vraiment populaire. La seule chose qui le dérange dans le fait que le public ne le considère pas à sa juste valeur, c'est pas le fait qu'on ne parle pas de lui ou qu'on parle moins de lui que les trois autres, etc. Je pense qu'il l'assume totalement et que ça ne le dérange pas. Il dit le seul problème, c'est que le public a pu parfois influencer peut-être une sélection en Coupe Davis et on a préféré parfois mettre un Gaël Monfils sur un cinquième match plutôt que lui parce que peut-être que mon fils est considéré comme quelqu'un qui est capable de tout et pas forcément Gilles Simon. Mais pour le reste, moi j'ai l'impression qu'il n'a rien fait non plus pour mériter davantage de reconnaissance de la part du public.
Sarah Pitkowski.
Alors, je vais répondre d'abord à ce que tu viens de dire, Sophie, quand tu dis il recherche pas la lumière. Oui, en effet, mais il y en a un autre qui recherche pas la lumière. Richard Gasquet ne la recherche absolument pas, la lumière.
Ouais, mais Gasquet, depuis l'âge de 10 ans, on parle de lui. Oui, donc c'était le petit Mozart du tennis. Quoi.
Oui, mais parce qu'on en parle avec son tennis, avec sa technique, avec ce qu'il est capable de produire sur le terrain. Gilles, en fait, quand on parle d'injustice, c'est pas, alors moi non plus le terme injuste me convient pas tout à fait. En fait, c'est la comparaison qu'il a eue avec la génération dans laquelle il a évolué. Mmh. En fait, il pouvait pas être au même niveau que les trois autres parce que, et tu l'as très bien dit, il n'avait pas un tennis spectaculaire. Il ne va pas gagner un point, il va faire déjouer son adversaire. Et en fait, c'est ce qu'il explique à travers son livre et ce qui le rend un peu acerbe de temps en temps, c'est qu'il explique que quand on vient me voir jouer, ça demande une concentration, autant pour lui que pour le spectateur. Il faut venir comprendre son tennis. C'est-à-dire qu'il ne va pas te faire un service gagnant, monter au filet, te faire une volée amortie, et tu vas te lever et tu vas faire waouh, ou un plongeon à la gueule mon fils, ou un revers long de ligne à la Richard Gasquet. Non, il va pas produire ce type de tennis. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans la tête de l'adversaire et il va le faire déjouer. Et il disait un truc très juste. Il dit, on qualifie un joueur au nombre de coups gagnants qu'il fait. Je vous rappellerai qu'au Ballon d'Or, on donne un ballon d'or à celui qui marque des buts. On donne pas des ballons d'or à des défenseurs ni à des gardiens. Eh bien, lui, en fait, il est là dans un effectif de foot. Il est défenseur ou il est gardien. Il est un N'Golo Kanté. Il est ce type de joueur-là. Et donc, en fait, dans un sport individuel, quand t'as un filet et que t'as deux mecs de chaque côté, eh bien, effectivement, ton œil va se porter sur celui qui va te faire vivre des émotions incroyables et qui va te faire des coups absolument incroyables.
Donc, il faut être spécialiste pour comprendre le jeu de Gilles Simon.
Et c'est pour ça qu'il le dit souvent. Il te dit, mais en fait, je suis dixième, on pense que je vais être sixième, mais c'est parce que les attentes, vous les avez pas. C'est parce qu'il faut comprendre son tennis. Ouais. Donc, ça demande un investissement.
Tu vois, Stéphane, tu n'es pas spécialiste.
Un peu
spécialiste de tennis.
Un peu comme Marie Lecomte.
Comprends pas le jeu de Gilles Simon.
Personne n'avait compris son jeu et en finale, Roland Garros, il a demandé si
les gens. Ça s'appelle de la maladresse.
Toi, je trouve qu'avec Gilles Simon, on n'a pas été spécialement injuste.
En fait, je trouve qu'on n'a pas été injuste parce qu'il me semble que nous, médias, on a été bien plus durs avec les Gasquet, mon fils et son gars, qu'on a été avec Gilles Simon parce que on s'est rendu compte que les résultats qu'avait Gilles Simon avec sa qualité de tennis, pour nous, c'était fantastique. Alors, Gilles Simon supporte pas de dire qu'il a optimisé au maximum son potentiel, mais c'est quand même le cas parce que c'est un garçon qui a été sixième mondial et ça arrive à le dire. Il est boring, il est ennuyeux.
So what?
Il y avait beaucoup plus d'attentes sur les autres.
Pas un gros service, pas un gros coup droit, pas un gros revers.
Et alors?
Tacticien, moi, quand je vais à Roland Garros, on me donne trois billets où j'ai le choix entre son gars, mon fils Gasquet et Gilles Simon. Gilles Simon, je le file au mec à la droite. Je vais prendre les trois autres. On s'en va quand je vais voir un spectacle. Mais ça, j'ai envie de voir un mec qui pousse la balle pendant 5h30.
Il a accompli
des trucs fantastiques. Sauf que en étant boring, s'il avait été un peu plus de, s'il avait un peu de panache, peut-être que ses performances
auraient été. Non, il en avait du panache. Mais
c'est un monstre physique. Il faut reconnaître qu'être capable de jouer 4h, 5h, 5h30 et remettre la balle en court, c'est une qualité fantastique. Mais est-ce que il s'adresse, ça rappelle.
Mais fantastique, à toi, tu viens de dire fantastique. Bah, mais jamais on a dit fantastique pour Gilles Simon au cours de sa carrière.
Quand il bat Nadal, en ce moment, je sais pas combien de balles de break à Madrid ou sur un match à 3h30, et lui-même le dit, c'est le plus grand match de sa carrière.
À part Eric, personne s'en souvient. On est tous allés bosser avant le débat, mais arrête, il y a que Salio qui s'en souvient de ça.
Moi aussi, je me rappelle.
Arrête.
À l'époque, on avait parlé de ça, ça avait fait la une. Simon qui bat Nadal, ça avait fait la une.
C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il avait fait la une?
Je suis pas sûr. Des bas tennis fantastiques. Sur la même saison, il a battu les trois, Federer, Nadal et Djokovic. Mais à un moment donné, on parle de quoi? On parle de spectacle?
Non.
On parle de coups d'éclat?
Là où t'as raison,
c'est un highlight de Gilles Simon dans ta tête là?
Et alors tu regardes ce qu'il a accompli?
Bravo, c'est fantastique.
Et d'ailleurs, t'as déjà donné des arguments. Je suis d'accord avec toi. C'est un mec qui a ultra optimisé son potentiel. C'est un mec qui te presse 2 litres de jus avec une seule orange. Tu vois, c'est magicien comme ça, tu sais pas d'où ça sort. C'est une sorte d'héritier, un mix entre. bon Santoro avec un petit peu moins de génie et Arnaud Clément, tu vois. C'est
Santoro, on vient aller voir.
Non, attends, j'ai dit avec un peu moins de génie.
Bon, Santoro,
tu l'as rappelé,
il a été
sixième mondial dans les mousquetaires là, dont on nous a vendu la légende. Il y a qui a fait mieux quand il est sixième mondial. Il y a Federer, Nadal, Djokovic, Murray et Davidenko, hein, pour ceux qui s'en souviennent, qui était quand même un sacré joueur devant lui. Hein, derrière, il y a Roddick, Del Potro. Il y a que des monstres. Hein, il s'est fait une place quand même. Effectivement, avec un style de jeu, il n'avait
pas. Tu crois pas qu'il y a un décalage quand même?
Il est le premier à reconnaître qu'il avait un style de jeu chiant.
Tu crois pas qu'il y a un décalage quand même entre justement ce classement mondial à sixième et les résultats qu'il a fait en Grand Chelem? Parce que quand tu cites les autres devant, ils ont tous en Grand Chelem brillé.
Il a rien volé à personne. Justement, ce qui est ahurissant, c'est que tu regardes, tu dis, attends, il a été sixième mondial, mais on n'a jamais parlé de lui. Tout le monde s'en foutait. Effectivement, boring, comme tu dis, Stephen. Il est le premier à reconnaître qu'il avait un style de jeu un peu chiant. Mais effectivement, lorsque tu l'entends, il a un discours très intéressant sur des débuts d'explication en fait là-dessus. La Fédération française de tennis qui a développé cette espèce de tropisme avant même l'avènement de Federer sur la création d'un joueur. Alors effectivement là, spectaculaire. Il faut que il ait la gouache devant les médias. Il faut que il ait un gros service. Il faut qu'il attaque. Il faut qu'il mette des points gagnants. C'était à la sortie des Sampras, Becker, Edberg et tous les mecs à une époque où on se disait le tennisman ultime c'est le service volé. Lui il n'était pas dans ce moule-là effectivement et il regrette. À côté de ça, le manque d'individualisation dans l'accompagnement de justement du tennis fédéral auprès des joueurs. Je suis désolé, il a été victime de ça. C'est un mec. Si on lui avait donné plus de considération, qui aurait pu faire encore mieux et qui aurait pu laisser une trace encore plus grande. Je trouve que c'est injuste, effectivement, qu'il soit la quatrième roue du carrosse là des mousquetaires.
Mieux, ça,
en 2014, Cilic qui remporte l'US Open, il est le seul à le pousser dans le tournoi au 5e set, hein. T'imagines, il le bat, il aurait peut-être pu remporter la bourriche. On a gagné un grand chelem depuis l'après-guerre. Donc vous me racontez les demi-finales des Français.
Il fait
finale, il est tout jeune et c'est exceptionnel à l'Open d'Australie. Il a jamais refait ça. Ouais, il bat Nadal en 3 sets secs. Personne n'a fait ça en grand chelem ou en tout cas à l'Open d'Australie. Je suis désolé, il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Et moi, quand j'entends votre question, je suis désolé, la réponse elle est simple.
Tu défends les Simons en fait.
Ouais, bah évidemment la corporation. c'est la famille.
Gilou. C'est plus clair. Eric,
Simon après. Oui. Gilles Simon, il a une vraie qualité, c'est que
il n'est pas langue de bois.
Non, c'est déjà. Ce que j'allais dire.
Il n'est pas langue de bois et il faut reconnaître que c'est un mec.
Il cherche pas à plaire.
C'est un mec qui analyse son sport. Ça veut dire que sur chaque adversaire, il sait exactement les plans de jeu, les faiblesses et les qualités de chaque adversaire. C'est le professeur. Son surnom est magnifique. Avant de rentrer dans un cours, il sait exactement quel plan de jeu il doit avoir contre chaque adversaire. Et ça, c'est une qualité. Il y a un paquet de mecs qui se présentent sur le cours en disant moi, c'est ma façon de jouer. Et ben, je joue comme ça.
Lui, c'est style Simon. Kyrgios, quoi.
Voilà.
Style Kyrgios.
On préfère que Gilles Simon. On préfère regarder avec Kyrgios qu'un Gilles Simon.
Gilles sera peut-être
le coach de Nick Kyrgios.
Non, alors ça j'y crois pas, mais il sera peut-être un coach exceptionnel en apportant effectivement sa compréhension du tennis, parce que il m'expliquait souvent, il disait mais je sais comment battre l'adversaire, sauf que est-ce qu'il a les armes pour le faire? Et c'était ça qui le frustrait, c'est qu'il savait pertinemment comment il fallait faire pour battre l'adversaire.
Est-ce qu'il intellectualisait pas trop non plus?
Peut-être.
Parce que ça aussi,
mais ça, les mécanismes, ils sont naturels. Donc, il savait, mais sauf qu'il avait peut-être pas toutes les armes pour pouvoir battre l'adversaire. Et c'est ça, quand on le voyait, tu le voyais s'énerver, tu te disais, mais finalement, tu joues un mec qui est 10 fois plus fort que toi, Gilles. Pourquoi t'es dans cette telle nervosité? Mais parce qu'il savait pertinemment quelle était la tactique qu'il fallait mettre en place.
Ouais. Rapidement, je pense que la Fédération française de tennis ferait bien de le recruter et de lui trouver un poste, parce qu'il a un discours très intéressant avec beaucoup plus de recul que beaucoup de joueurs qu'on entend.
Qui feront appel à lui, parce qu'à un moment ou un autre, il va falloir construire ou s'étoffer tactiquement, ou une meilleure compréhension de son tennis, et il servira absolument.
Sur l'approche mentale également, il a beaucoup travaillé avec sa propre expérience,
mais il a
beaucoup réfléchi.
Et après, j'ai envie de te dire, moi, dans tous les sports, c'est la même chose. Il y a toujours une ou deux personnalités qui écrasent les autres à résultat pratiquement égal. Hein. Il y a ceux qui deviennent des stars sur des critères qui sont parfois assez subjectifs. Et puis, il y en a d'autres qui restent juste des grands champions. Et Gilles Simon, c'est un grand champion.
Oui, mais je pense qu'il voulait pas plus. Hein. Il en voulait pas plus. Hein.
Est-ce que Eric, sans mon fils, sans les Tsonga, il aurait eu une autre carrière, on aurait une autre vision de lui, quoi? Est-ce qu'il a pâti de la présence, justement, de ces trois autres?
Il a été aussi
aussi dans l'aspiration de ses petits camarades. Hein. Oui. Il y a eu une émulation fantastique. On parlait de l'année 2008 où on avait deux mecs au Master. Donc il a profité de ça aussi. Maintenant, moi, je reviens. Moi, je dis toujours pas la finale de.
Ah, t'as envie de tomber sur Guy Forget.
De Serbie.
Guy, si tu nous entends.
Moi, Gilles me l'avait confié en interview. Il m'a dit. Guy savait même pas que je menais 4-0 contre Viktor Troïski.
C'est un scandale.
Et voilà, et ça, c'est le plus grand regret de sa vie parce que c'est.
Ouais, je savais que
Troïski, à Melbourne, deux mois plus tard, il voit des journalistes français, il se marre, il dit oh, vous passerez le bonjour à Guy Forget, hein, parce qu'il avait qu'une trouille, c'était joué.
Alors que Gilles savait que Guy était à 0-4 contre Mats Wilander en
c'est possible.
Bon, en tout cas, sur Gilles Simon, là, il joue donc contre Andy Murray. Eric,
ça va être génial, ça va durer 4 heures. Et Sophie, tu peux venir, hein, tu vas te régaler.
Bah, Stéphane n'ira pas, visiblement, hein, ça t'intéresse pas.
Boring. Écoute, si je suis invité, pourquoi pas. Si je veux, éventuellement, je vais bien aller voir Gilles, mais envoie les places, Eric. Et puis Andy Murray, c'est la classe aussi. C'est sympa d'ailleurs cet affrontement Andy Murray Gilles Simon.
Ouais, ça va être sympa. Ouais. Il a une petite chance, Simon contre Murray.
Bah, souviens-toi, Roland, c'était son dernier Roland. Il a battu Karen Obusta à 1h du matin dans une ambiance extraordinaire. Bercy, c'est toi de ses rêves, puisqu'il est du Val-de-Marne, donc il allait quand il était môme, il allait tout le temps. Je pense qu'il va défendre chèrement sa peau. Donc j'attends le programme. Je pense que ce sera en night session. Ça peut être sympa.
Ah bah voilà, bien vendu du Gilles Simon. Tu vois, Stephen, prenant de la graine.
Bien Stephen.
Ouais, je vais aller voir Gilou. J'étais à Roland ce soir quand il s'est fait détruire par Marin Cilic, mais il était cramé.
Bon, Garado, fallait voir.
Oui.
Du tennis, on en reparle sur RMC, Eric, avec toi aussi, ce soir, 19h.
Quoi?
Novak Djokovic, t'es pas au courant. Ah, il est pas au courant. Il est pas au courant, alors je vais te l'apprendre. Novak Djokovic, invité exceptionnel à 19h.
Ça, c'est un gros coup de Mario Bartoli.
Marion Bartoli.
On va lui demander. N'hésite pas à lui demander si Federer est vraiment le goût.
On va lui demander ce qu'il pense de Gilles Simon.
Ouais. Bah, pourquoi pas? Mais il a sans doute un avis intéressant.
Ah bah, le match à Melbourne où il fait 100 fautes directes, crois-moi, il a cru qu'il allait sauter, hein, ce jour-là. Hein.
Novak Djokovic, ce soir, 19h dans Bartoli Time, bien évidemment. Merci beaucoup, Eric, d'être passé dans les grandes gueules du sport.
C'est un plaisir.
On accueille un homme en colère. Dans un instant, Pierre Amiche, qui veut pas de nom sur les maillots des joueurs de rugby. Oh là là, Pierre Amiche en colère, ça vaut le détour. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. François Pinet.
Yes, les grandes gueules du sport sont de retour jusqu'à midi et c'est pas boring. Monsieur Stephen Brun, Sophie Camoun, Simon Dutin, Sarah Pitkowski autour de la table. Non, on n'est pas boring.
Mais non, on n'est pas boring.
Dans un instant, il y aura un nouveau zapping, on s'en fout pas. Et je vous parlerai, tiens, d'Anthony, le Brésilien de Manchester United, qui a fait une toupie.
Alors, on s'en fout pas. Sophie et moi, on s'en fout.
De quoi on parle? Vous allez voir la vidéo et on en parle dans un instant.
Non, mais
si,
on
moi,
s'en fout.
J'adore ce geste.
Mais en fait, on ne sait pas si on s'en fout, si c'est sympa ou si c'est pathétique, en fait.
Bon. Bah, on va en parler dans un petit instant.
Vous êtes boring,
la toupie d'Anthony. Vous tapez ça sur RMC Sport, vous allez voir la vidéo. Mais d'abord, on fait entrer un homme en colère.
RMC, l'homme en colère.
Mais pourquoi est-il aussi méchant? Pierre Amiche.
Salut Pierre.
Bonjour à tous.
Pourquoi Pierre. Tu es en colère ce
Salut
matin
Pierre. Eh ben cette semaine, la Fédération anglaise de rugby a annoncé que pour la tournée de novembre, ils allaient floquer les maillots du 15 de la Rose avec le nom de leurs joueurs. Alors officiellement, c'est une manière de mieux faire connaître les membres d'une équipe en manque de stars. Et puis officieusement, c'est surtout une façon de booster les ventes de maillots d'un sport à l'agonie. Il y a deux équipes qui ont déposé le bilan 3 semaines en Angleterre. Et là-bas, eh ben c'est la Fédération qui gère le championnat, donc on a besoin d'oseille. Malgré des raisons objectives et certainement entendables, moi ça me met vraiment, vraiment en colère. Hein. Le feu d'une rage profonde allumée par le cynisme mercantile faussement novateur de la fédé anglaise et une colère attisée hier par mon voisin de droite. Pétri de certitude, le petit François Pinet m'a lâché les yeux dans les yeux. Ah mais c'est super! Moi j'ai toujours pensé que le rugby ils avaient 15 ans de retard. Et là j'ai câblé, je dois le dire, François, si t'avais pas eu ce physique d'enfant malade, j'aurais même pu te casser la gueule. Parce qu'à cause de toi, j'ai terriblement mal dormi. Je te jure, j'ai pas arrêté d'y penser, je me suis levé la nuit pour écrire le papier. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça me touchait à ce point. Je veux dire, t'as le droit de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, c'est pas ta première émission sur RMC. Mais j'ai fini par comprendre, parce que malgré tout, t'as mis le doigt sur 3 choses. 1. Il faudrait que le rugby copie le modèle du sport business par excellence. Comme si pour être un sport honorable, il devait ressembler au sport que tu aimes, le foot. 2. Parce que pour mériter ta considération, il fallait que le sport que j'aime, moi, qui m'a fait grandir, se rende beau à tes yeux. Et que quelque part, l'avenir de mon sport serait de plaire à des gens qui ne l'aiment pas comme il est. Et donc, qui ne le méritent pas. Et 3. Parce que cette génération d'enfants gâtés, de consommateurs compulsifs, tellement supérieurs à tous les autres, il faudrait pour elle tout changer. La règle, les durées des matchs, la couleur des maillots, le format des compétitions, tellement peur que le sport ne plaise pas à ceux qui n'aiment pas le sport. Alors on saccage tout. Alors laisse-moi dire, mon petit pote, que t'as tout faux. Hein, parce que c'est juste reconnaître la victoire de l'individu sur le groupe. Floquer les maillots, c'est reconnaître que ce qui compte, c'est moi. C'est le triomphe du jeu sur le nous. Moi, mon nom comme un étendard, ma gueule comme un prospectus, mes stats comme une signature. C'est cette musique que je peux plus entendre. Aimez-moi, admirez-moi, adulez-moi. C'est assumer que le mec dans le maillot, il est plus important que le maillot. C'est penser que la victoire, c'est le fait d'un homme providentiel. C'est la recherche d'idoles à porter au nu, plein de superlatifs démago dans ta bouche de crétin. Hein, formidable, extraordinaire, génie. C'est le triomphe de l'individualisme, mais aussi c'est celui de la crétinerie du moment. C'est dire que Aya Nakamura, c'est mieux que Mozart parce qu'elle fait plus de vues sur TikTok. C'est la culture de l'instant, la consommation de l'éphémère. Hein, si le joueur se bousille, eh ben on achètera un autre maillot et puis on le floquera différemment. C'est la fête. Avec cet argument que t'assènes comme une vérité absolue. Oui, mais sans passer par là, c'est la mort du rugby. Ah, mais qui dit ça? Ouais. Toi? Hein? Et alors? Moi, je préfère voir le rugby crever que de le voir vendre son cœur et son dos. Hein, s'identifier à des mecs qui tapent dans un ballon rond ou ovale. Mais regardez où ça a mené l'individualisation de la performance en football. Mbappé, c'est devenu un mélange de Steve Jobs et du pape. Il prend 100 barres par an et Macron lui demande de rester une main sur le cœur, debout devant le drapeau tricolore pour la France. Mais si tu veux des héros, mon petit pote, tu vas voir un Marvel. Si tu veux des modèles pour tes gamins, eh ben, tu leur fais voir un film sur Simone Veil ou Jean Moulin. Et puis, en creux, accepter de mettre ton nom sur un maillot comme s'il t'appartenait. Comme si c'était plus que toi, le simple locataire ponctuel. C'est aussi accepter que les joueurs, ce soit une valeur marchande, quantifiable. C'est celui qui vendra le plus de maillots qui sera le plus fort. Alors les joueurs passent, mais l'équipe reste. Et avant Dupont, avant Ntamack, avant Ficou, il y a eu des centaines de grands joueurs. Après eux, le déluge. Hein. Ou n'importe quoi, je m'en fous. Mais François, le rugby, il a peut-être 15 ans de retard, mais il a 150 ans d'histoire. Moi, je suis pas pour vivre comme au 12e siècle et mourir à 39 ans. Mais je suis pour qu'on n'oublie jamais que les joueurs sont comme toi, François. Juste de passage.
Bravo. Alors, je savais pas que je t'avais mis comme ça en colère. Hein. Franchement, je pensais pas. Mais tout ça est vrai. Hein. C'est une histoire vraie. C'est ce qui s'est passé hier dans la rédaction. Merci Pierre. Est-ce que vous aussi, cette histoire de nom sur les maillots, ça vous met en colère, les amis? Colère ou pas colère, Sarah Pitkowski?
Quand tu dis pas colère, c'est-à-dire qu'on est pour le nom sur les maillots?
T'es pas en colère, ça ne te gêne pas.
Qu'on mette le nom sur les maillots. Oui. Non, bah alors, il est parti. Oui. Ou il reste pas en colère. Sinon, j'ose pas répondre.
Sophie.
Non, super chronique, mais pas en colère du tout.
Pas en colère, voilà, Simon.
Comme aurait dit Monsieur Manhattan, je suis colère.
Oui. Ah, il est colère. Stéphane.
Bah, quelle idée exceptionnelle, le nom sur les maillots.
Voilà. Alors, bravo, merci. Ah là là. Bon, on va quand même donner la parole à Simon, puisque c'est le seul qui est en colère, lui aussi. T'es en colère, toi?
Oui, alors sans partager les envolées un petit peu lyriques de mon compère Amish, je pense qu'on se voile la face si on se dit que bon, le rugby a résisté à la tentation mercantile, ouais, et au tout business. Voilà. Cela étant dit, là où je rejoins Pierrot, c'est que il y en a un peu ras-le-bol, effectivement, tous ces sports qui se transforment et qui, on est à la frontière des transformations entre vraiment les règles qui concernent quasiment la pratique du sport et puis la tradition sur effectivement des traditions sacrifiées sur l'autel de
l'attractivité.
Non,
de
voilà, essayer d'aller,
mais non, sport, de la pédagogie.
D'aller chercher du pognon, voilà, on va pas se le cacher, d'aller vendre plus de maillots, ouais, effectivement, d'individualiser et tout, de starifier. Alors c'est le modèle qu'a pris le rugby.
Star, peut-être, qu'il faut, rugby, mais, peut-être qu'il y a des enfants qui vont
se dire, ouais,
ce qu'on oublie, c'est que pendant très longtemps, jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, le foot c'était pareil, hein, ça, les numéros allaient de 1 à 11,
et effectivement, sur les maillots.
Bon, effectivement, et ça met du temps. Il y avait ni nom sur les maillots, ni chiffre numéro oui, supérieur à 11 pour les titulaires. Au rugby, chaque chiffre correspond à un poste bien défini. Et ça, c'est figé dans le marbre. Tu peux pas jouer
si
à l'arrière.
Sauf si tu changes les règles de numérotation des maillots.
Ah oui, non, mais là, c'est justement.
Après,
c'est...
Là, tu les perds, voilà, lui-même. Et là, le 1, il sait qu'il doit s'attacher au 2. Le 2, le 3.
Non, mais justement, vous voyez, on est encore. Tout à l'heure, François, quand il a teasé son débat, il a dit, oui, les valeurs de l'Ovalie, on prend toujours ça, un accent de provincial bien, non, ou de vraiment qui a jamais vu la ville et tout. Non, il y a cette espèce de mépris, si, effectivement, c'est pour le rugby et ses traditions.
Non, les gens, ils parlent
comme
vous,
ça du rugby.
C'est
non, c'est François qui l'a fait tout à l'heure. C'est François qui l'a fait tout à l'heure. Dans le rugby, le maillot, il y a quelque chose qui est sacré autour du maillot. Il y a la remise des maillots, mais laissez-moi terminer. Il y a la remise du maillot qui est une cérémonie, un mec qui reçoit son premier maillot international dans le vestiaire.
vestiaire devant les mecs qui
l'ont passé en sélection. Il y aurait son nom dessus, il serait encore.
Mais non, justement pas. Justement pas. C'est pour ça que c'est beau. C'est parce qu'il n'y a pas son nom. C'est qu'il reçoit le même maillot que des légendes qui sont passées là avant lui. Et ça perpétue effectivement quelque chose
qui j'adore.
Qui est la fierté.
J'adore
du maillot.
Les fans de rugby.
C'est Sophie Camus. Une mais connerie absolue. Et déjà qu'on a accepté les sponsors sur les maillots des équipes nationales.
Tu vas aller, c'est un scandale. Je veux dire, on est en plein dans le sport business. Pourquoi on a floqué le nom des joueurs sur leurs fesses?
Mais j'ai pas dit que le rugby était réticent au business.
Les noms sur les fesses il y a 5 ans. C'est parce que c'était le seul espace qui n'était pas vendu aux partenaires. Et dans les séminaires d'entreprise, t'as toujours. Et pour revenir sur ton histoire de collectif, l'équipe est meilleure, les doigts supérieurs aux joueurs, etc. Dans tous les séminaires d'entreprise, t'as toujours l'ancien joueur de rugby qui vient parler des valeurs du rugby, le seul sport où le collectif est supérieur aux individus. Mais je trouve ça hyper insultant pour les autres. C'est insultant pour notre belle équipe de France de hand, pour celle de volley qui nous a fait vibrer à Tokyo et qui a gagné grâce à la force d'un collectif. Mais bien sûr que si. Je veux dire, ils ont tous.
C'est parce que c'est vrai, en fait, dans le rugby, que le collectif est supérieur à
l'individu. Ils ont leur nom sur le maillot, on se pose pas toutes ces questions. Le collectif, ils le montrent sur le terrain, ils ont pas besoin de le montrer sur leur maillot, sur leur short.
Moi, je vais pas me parler en tant que non spécialiste de rugby qui regarde les gros matchs. Pour moi, je trouve ça important d'avoir le nom des mecs, ça me permet de repérer qui est qui.
Exactement. Et même pour les gamins,
ça m'intéresse à la télé de voir le nom du mec sur son dos, parce que moi, je connais pas le pilier du 15 de la Rose. Moi, j'aime bien avoir des repères. Et pour Denis Charvet, ça lui permet de lire aussi, comme il faut, même s'il va manger le nom. Et puis, on est dans une, enfin.
Bien sûr qu'il y a un enjeu marketing derrière tout ça.
Bien sûr, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Moi, je trouve ça bien. J'ai envie de voir des gamins acheter le maillot de Dupont, numéro 9, Dupont, se balader dans la rue, aller à l'école avec le maillot Dupont, moi je trouve ça bien, je trouve ça sympa.
Les gamins
sont. Tu achètes un maillot bleu avec un 9 dans le dos et t'as le maillot
Dupont. L'identification
du gamin.
Mais oui, tu t'identifies pas un joueur quand tu
pour un sport, c'est important. Sinon, t'as plus de gamins qui vont jouer au rugby. Là, ça peut amener des enfants à jouer au rugby.
Mais alors pourquoi on est donc les gens qui aiment le rugby, c'est quoi? Tu vas me dire, c'est parce que j'ai des origines béarnaises, que je suis un gros bouc de Béarnais, que moi j'aime le sport patérien.
Non, mais t'as le droit d'avoir
Les gens qui aiment le rugby à notre époque, comment ils ont fait? Alors, il n'y avait pas les noms sur les maillots, et pourtant, ils aiment le rugby, c'est vraiment des fous furieux.
Il faut savoir évoluer avec son temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, tu vas voir des gamins avec un numéro 9 ou un numéro 10 qui va aller à l'école. Mais le numéro 10, lui, ce qui l'intéresse, c'est le numéro 10 d'aujourd'hui, le numéro 9 d'aujourd'hui, pas celui d'il y a 25 ans.
Justement, le rugby, je vous l'ai dit, il a déjà cédé. Il a déjà cédé à l'attrait du business et le maillot, il est comme le maillot des bleus en foot, il change tous les deux ans, donc il n'y a pas de panique. Hein. Le maillot que tu achètes actuellement, tu sais que si tu mets le 9 derrière, tu sais que c'est Antoine Dupont. Hein. Voilà. Si tu achètes celui d'il y a 10 ans.
Tu ne peux
pas confondre avec Berbizier, hein, je suis désolé. Ils n'avaient pas assez même la texture. Ou Jean-Marc Poussin,
qui souffle bien rapide. Le rugby, c'est un sport qui est compliqué à regarder. Sincèrement, les règles, elles sont compliquées. Même quand tu entends Denis Charvet ou tu entends.
Et on les voit toujours de dos.
Surtout quand
ils te disent eux-mêmes dans leurs commentaires, mais il faudrait revoir cette règle. C'est un sport qui est complexe. Ouais. Qui est complexe. Et donc, quand tu vois les mecs en mêlée, quand tu vois les mecs qui ont le nez dans le gazon, il y a un moment ou un autre, oui, ça peut aider dans la compréhension du sport.
Si tu vois marquer Gelon, tu vas plus comprendre que le mec. Tu vas dire, il est rentré sur le côté du regroupement. J'ai compris parce qu'il avait marqué son nom sur le maillot.
Mais non, parce que son nom sera donné, parce que je l'aurai imprimé, parce que je sais qu'il vient de La Rochelle, ou je sais qu'il vient du Stade Français, ou qu'il vient de Toulon, et je vais pouvoir m'intéresser dans sa globalité au rugby.
Qu'est-ce qui est gênant, en fait, le fait qu'il y ait un maillot Dupont qui soit porté par un gamin, c'est quoi qui véritablement vous dérange?
C'est pas la question, c'est que au rugby plus qu'ailleurs, le numéro est attaché à un poste et le poste
n'appartient plus qu'ailleurs.
Encore une fois, regarde dans le foot, on peut aller jusqu'au 99 maintenant. À l'époque, quand j'étais petit, t'avais du 1 au 11. Christophe Coquart, il portait le 7 parce qu'il était ailier droit. Pascal Bayrua, il portait le 11 parce qu'il était ailier gauche. Le 9 était avant-centre. C'était figé.
Le numéro le plus important,
c'est Halloween. Donc, Christophe Cessieu est déguisé en Simon Dudin.
Ils ont mis un jeune réac à la place d'un vieux réac.
En fait, tu stigmatises tous les sportcos en disant ça. Parce que tous les autres sportcos ont leur nom.
Non,
si, tu les stigmatises.
Non, je considère que le rugby a une dimension à part dans l'émanation de l'expression collective
le basket est passé par là. Le basket avant, c'était des numéros de 4 à 15. Et aujourd'hui,
t'as
l'énergie.
T'as
tous les numéros.
Il y a des numéros qui deviennent mythiques. En plus, parce qu'ils portés justement par quelqu'un.
Parce que numéro choisi,
et choisi. Devient un numéro mythique.
Après, la vraie problématique des flocages, c'est l'intendant de Georgie et Fidjien, parce que je suis pas sûr qu'il puisse floquer les noms des rallonges des Mamoukachvili. Je suis pas sûr qu'il y ait de la place dans le
cocher en flocage. Ouais. Bon. Non, mais tu vois, en basket, je suis désolé, Steve. Tu retires le numéro d'un mec, tu vois. Il y a 99 numéros possibles. Tu retires le numéro d'un mec, plus personne n'a le droit de le porter. Ok. En rugby, ça va de 1 à 15. Je suis désolé.
Et ben alors,
le
2. Si t'as grandi la palette, c'est-à-dire que t'aimerais pas qu'on retire des maillots mythiques. Pas qu'on retire, imagine dans 10 ans, Antoine Dupont qui a ramené la première Coupe du Monde à la France.
On enlève le 9.
Le numéro 9, Antoine Dupont, est retiré.
On enlève le 9.
Et donc, tous les mecs, ça serait les vraies valeurs de l'Ovalie, la reconnaissance des joueurs.
Et tous les mecs qui ont porté le 9 avant Antoine Dupont, ils n'ont pas mérité. Ils étaient trop mauvais.
80,
ils étaient pas assez bons.
Ça fait 8 plus 1.
Voilà.
80,
c'est ça. Tous les 9 avant Dupont, ils n'ont pas existé.
Enfin, en tout cas, ça a quand même.
Mais vous n'aimez pas le rugby, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ça a quand même été tenté. Mais si on
n'aime pas le rugby, vous le méprisez. Même.
Ouais, c'est ça.
Sophie Camoun.
Non, mais je dis, moi, ça a quand même été tenté par les clubs. Et si ça a été tenté, c'est que ça rapporte quand même de l'argent et que cet argent-là, ils en ont besoin, c'est tout. À un moment donné.
Encore une fois, le business.
Les numéros sur les maillots de bain, ils n'ont pas fait ça encore.
Les numéros sur les maillots de bain,
mais
non.
Pourquoi on ne floque pas le dos des nageurs?
Mais sur le bonnet, c'est pareil. Sur le bonnet, si le nageur décide de mettre son nom, je parle de son bonnet de club, l'équipe de France, t'as pas le choix. Mais si tu décides de mettre ton nom sur un côté du bonnet, tu perds un espace pour un partenaire. Et t'en as certains qui préfèrent avoir l'espace pour leurs partenaires parce que ça leur apporte de l'argent plutôt que leur nom.
Évidemment.
Et je pense qu'on en reparle dans 5 ans, mais je pense que dans le rugby, on va y aller tout droit comme dans tous les sports.
Il y avait des boxeurs qui se font tatouer des sponsors quand ils combattent sur leur dos, sur leur biceps.
Ah ouais.
Hein,
d'accord.
Quand le short est rempli, il faut compléter dans le dos.
Bon, en tout cas, Pierre, tu vois, tu as perdu ce débat. L'homme en colère, mais qui a perdu ce débat. Même s'il n'était pas là. Je me venge.
C'est
normal, j'ai le droit. Allez, tout de suite, un nouveau zapping. Le fameux on s'en fout pas. On va parler de cette toupie d'Anthony. Moi, j'adore ça. Vous me dites ce que vous en pensez dans un instant. Allez, à tout de suite sur RMC.
On oublie que les sportifs ont un cœur d'homme. On dit souvent il y a un cœur de sportif, mais il y a un cœur sportif dans un corps d'homme. Et avant tout, il y a un cœur.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h47, les grandes gueules du sport, c'est jusqu'à midi avec aujourd'hui autour de la table Simon Dutin, Sophie Camoun, Sarah Pitkowski et Stephen Brun. Simon Dutin, très courageux ce matin parce que il prend le contre-pied systématique de ses petits camarades. Mais bravo. À 11h, c'est le bras de fer des GG. Les matchs de Victor Wembanyama avec Boulogne-Levallois vont être diffusés aux États-Unis. Ça a déjà commencé la nuit dernière. Est-ce que c'est une aubaine ou non pour la Ligue nationale de basket et le championnat français? Est-ce que c'est anecdotique? Il va falloir choisir votre camp, team anecdotique ou team exceptionnel. Vous pouvez déjà vous rendre d'ailleurs sur le compte Twitter des grandes gueules du sport pour répondre au sondage qui a été mis en ligne ce matin. Mais d'abord, à 10h47, le on s'en fout pas, deuxième version.
Le zapping des GG. Le retour.
Avec donc Anthony, le Brésilien de Manchester United, qui assume alors totalement sa toupie. Et il a reçu même le soutien de Neymar. Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on s'en fout pas? Sophie Camoun.
Ouais, j'aurais envie de suivre Sarah, mais on en a tellement parlé cette semaine que je vais dire je m'en fous pas.
Ah, elle s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Stephen Brun.
On s'en fout pas.
Sarah Pitkovski.
Ah bah, je m'en fous là.
Oui, on avait, on avait bien compris. Le geste d'Anthony.
Moi, je suis obligé, j'ai épuisé tous mes jokers.
Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une toupie, hein, une spéciale d'ailleurs pour ce joueur. Il ne l'a pas fait que à Manchester United, il faisait avec l'Ajax par exemple, et qu'il a réalisé cette semaine en Ligue Europa. Alors, il y a les contres, comme Paul Scholes, l'ancien de Manchester, qui l'a traité de clown, hein, qui a dit c'est totalement ridicule, c'est de la frime.
C'est un rugbyman, lui.
Il y a Eric Tenag, son coach, qui l'a prévenu qu'il n'aimait pas les gestes inutiles. Et puis, du côté des pours, bah, il y a Neymar, son coéquipier brésilien au Brésil, hein, qui a posté sur Instagram, continue comme ça, ne change rien, Anthony, qui a même expliqué qu'il allait refaire ce geste. Pourquoi on s'en fout pas, tiens, Stephen?
Parce que moi j'aime bien. Alors, ce qui est dommage, c'est que la finalité, après, il a fait une passe pourrie.
Oui.
Mais, je parlais de Gilles Simon.
C'est pas à cause de sa toupie, ouais, en plus.
Non, c'est pas à cause de sa toupie. C'est juste, il a fait une mauvaise passe. Pourquoi on devrait interdire aux mecs qui ont du talent, qui sont un peu excentriques, qui sont des génies sur le terrain, ce genre de d'excentricité? Ça fait partie du foot. Son coach lui dit, écoute, il y a 0-0, je préfère que tu sois. Mais ce mec-là, s'il est arrivé à ce niveau-là, c'est parce que il est capable de faire ce genre de choses. Sinon, ça serait pas Anthony. Il aurait pas pris 90 millions de transferts pour passer de l'Ajax à Manchester United. Ça fait partie des mecs-là. C'est des balles-là. On les a eu avec Neymar aussi. Pourquoi Neymar, il se fait sécher? Il devrait pas arrêter ses gris-gris. Peut-être parce que ça fait de la provocation pour les défenseurs qui ont envie de le découper. Ces mecs-là sont nés avec le folklore, un talent technique supérieur. Écoute, continue, mon grand. Par contre, sois peut-être un peu plus efficace. Comme ça, t'éviteras de te faire taper dessus par les légendes de United.
La question, Sophie, c'est est-ce
que c'était très boring aussi, hein.
Non, là, je suis pas d'accord. Paul Scholes, c'était, il y avait le côté laborieux, mais il n'y avait pas que ça.
Paul Scholes.
Ah ouais, il n'y avait pas que ça. Oui. Des buts de loin.
Il n'est pas très funky non plus.
Oui.
C'est juste un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du championnat anglais.
On va pas faire pour là sur Paul Scholes, voilà. Mais Sophie, la question qui prolonge ça, cette histoire d'Anthony, c'est est-ce que on peut autoriser des gestes inutiles mais spectaculaires dans le sport?
Écoute, je pense que Simon va s'opposer à Stephen. Donc, je vais pas être très longue. Pour moi, franchement, je m'en fous pas, mais j'ai du mal à me positionner, en fait. Je sais pas, comme je le disais tout à l'heure, si je trouve ça sympa ou pathétique, quoi. C'est drôle de voir des choses, des gestes qui sortent de l'ordinaire. Moi, je trouve que ça fait partie aussi du spectacle. J'adore le côté Joga Bonito, là, qu'on défendait quand je travaillais dans la marque à la virgule. Ce côté Joga Bonito des Brésiliens. Mais quand c'est à ce point totalement inutile et limite raté, je trouve que ça fait un peu l'effet contraire et que c'est et que ça devient un peu naze, en fait. Voilà, ah oui, c'est pour ça que je suis très partagée.
Simon.
Écoute, je vais faire taire les mauvaises langues parce que mon cher Stephen, je partage tout ce que tu viens de dire. On touche à l'essence du foot, voilà. On a tous joué au foot. Moi, je suis encore capable j'adore m'extasier.
De faire des toupies.
Non, mais j'ai des copains moi qui jouent à un niveau correct. J'adore les voir jouer. Je peux me régaler sur juste un jeu en triangle.
Merci,
un dimanche.
Simon.
Non, mais pas les matchs de RMC et BFM, hein, quand même, faut pas déconner. J'aime justement. On est dans le règne de la stat, effectivement, du rendement. Alors bon, les anciens de United, ils sont connus pour être impitoyables avec les mecs qui sont passés derrière eux. Donc Scholes, c'est pas surprenant. D'autant qu'effectivement, Stephen l'a rappelé, derrière, il perd le ballon. Mais le foot, c'est aussi ça. On a le droit de revoir 50 fois un dribble qui n'a pas apporté un but, un contrôle orienté extraordinaire. C'est à ce titre aussi que Karim Benzema, c'est formidable qu'il ait été ballon d'or, parce que sur une déviation, sur une feinte de corps, parfois juste ne pas toucher le ballon, le laisser passer pour l'adversaire, même si ça donne pas un but, c'est beau. C'est ça qui fait que le football, c'est autre chose que des buts, des résultats, de la victoire. Alors effectivement,
c'est mieux quand c'est efficace, quoi. Voilà.
Stephen le dit, il se fera un peu moins défoncer quand il marquera un petit peu plus de buts, parce que c'est ce qu'on reprochait à un de ses prédécesseurs, Cristiano Ronaldo.
Ouais.
Tu sais, mais il faisait gigoter le ballon entre ses deux talons là quand le mec est à 3 mètres de lui. Effectivement, quand il s'est mis à mettre 50 buts par saison, on lui a pardonné plus facilement.
C'est toujours pareil. Il faut choisir son moment.
Et Simon, lui aussi le roi de la toupie, mais allongé sur le ventre et tout nu le soir.
Je savais pas que tu avais assisté à ça, toi. Je me souviens pas.
C'est incroyable, hein, ça a fait le tour. Oui, et puis vous avez vu aussi le geste de Neymar qui, pour le coup, était presque efficace. Enfin, il était efficace, qui avait donné hier un ballon
à Mbappé. Extraordinaire.
Et là, t'en veux à Mbappé de pas le mettre au fond. Parce
que franchement,
c'était la passe décisive. Ah bon, il était hors jeu?
Oui.
J'avais pas suivi. On a appris, deuxième info, cette semaine, que le club féminin de Manchester City n'utiliserait plus de short blanc pour ses joueuses. On s'en fout pas. Sophie Camoun.
Je m'en fous pas.
Simon Dutin.
M'en fous pas.
Sarah Pitkovski.
Je m'en fous parce que ça tombe sous le sens, quoi.
Stephen Brun.
Oui, voilà, comme ça.
Donc tu t'en fous aussi. Le club anglais qui a annoncé ne plus fournir de shorts blancs aux joueuses. On explique la raison. Les joueuses qui avaient fait remarquer au club qu'il était difficile, évidemment, de porter une tenue blanche lorsqu'elles avaient leurs règles. Et un sujet qui a été soulevé pendant l'Euro féminin par notamment les joueuses de l'équipe d'Angleterre. Et c'est pas le premier club à le faire, puisque West Brom et Stoke avaient déjà changé aussi la couleur des shorts en championnat féminin. Sophie.
Oui, ça tombe sous le sens, c'est effectivement. Mais
enfin, ça tombe sous le sens, mais on a mis le temps.
Mais on s'en fout pas pour autant. Mais c'est vrai que je pense que la plupart des équipementiers sont en train de prendre conscience de ça. Enfin, nous, en natation, on mettait jamais de maillot blanc, quoi. Enfin,
oui.
Et pour aussi, pour les mêmes raisons. Ah oui. Et puis, je vais être très honnête avec toi, c'est toujours dans les moments où tu ne veux pas avoir tes règles qu'elles tombent. C'est-à-dire dans les moments de stress, dans les compétitions importantes, dans les moments où tu portes du blanc, etc. Enfin bon. Donc, moi, je trouve ça très bien que, effectivement, les équipementiers en prennent conscience et c'est très bien, mais c'est à la fois aussi totalement normal. C'est bizarre que ce soit pas, tu vois, ça n'a pas été développé plus tôt.
Que ça soit pas généralisé pour l'instant. Ouais. Simon, tu t'es dit que t'en foutais.
Non, mais rien à ajouter, c'était une réclamation.
Ah, c'est juste, d'accord.
Non, mais je veux dire, les joueuses le réclamaient depuis un petit moment. Effectivement, comme mes camarades, ça tombe sous le sens et on s'en réjouit. Voilà.
Et tu m'as demandé de me foutre de rien là sur la deuxième heure. Donc,
c'est bien. Tu vas peut-être continuer avec cette troisième info. Barack Obama, bientôt propriétaire d'une franchise NBA. On s'en fout pas. J'ai vu la tête de Stephen. Stephen.
J'ai rien à dire là-dessus.
Ok, tu t'en fous, t'as le droit.
Bah, moi aussi, en fait, je prends l'info, mais je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on aurait à commenter dessus?
Bah, je sais pas.
C'est mieux que ça. C'est mieux que lui que Trump.
C'est une rumeur de toute façon pour l'instant.
Ça s'appelle préparer l'émission.
Sophie. Oh, bah, d'accord.
Non, bah écoute, je m'en fous pas. Je vais te faire un carton plein.
Je m'en fous.
Ah, ils sont. Donc ça va être pour toi, Sophie, l'ancien président des États-Unis qui pourrait faire partie d'un groupe de propriétaires pour racheter la franchise NBA des Phoenix Suns. En tout cas, c'est ce que croit savoir Bill Simons, qui est un des journalistes les mieux informés sur la NBA. Obama, grand fan de basket, mais lui, c'est plutôt des Chicago Bulls, qui deviendrait en plus le deuxième président noir en NBA après Michael Jordan, qui est le propriétaire des Hornets.
Ouais, et puis Charles Barkley aussi, qui a dit qu'il était prêt à l'acheter avec lui,
c'est quand même
si Obama.
Qui, Barack Obama.
Non, mais ce qui m'a toujours plu chez Obama, c'est effectivement déjà au-delà de tout ce qu'il a fait, c'est un passionné de sport, c'est un passionné de basket, c'est un fan de NBA. C'est sa passion depuis toujours. Il jouait quand il était à l'université d'Hawaï, quand il était jeune. Ensuite, il a commencé son premier boulot. Il a commencé à travailler à Chicago. Il est devenu un fan des Bulls et notamment de Jordan. Il a transformé le terrain de tennis de la Maison Blanche en terrain d'un playground de basket. Donc voilà, c'est un vrai fan et c'est sûrement l'un de ses rêves les plus fous de pouvoir racheter une franchise. Et puis voilà, si elle est à vendre, et ben pourquoi pas. Enfin, moi, je trouve que ça fait partie. Voilà, c'est une belle histoire.
Bah, franchement.
En fait, j'en parlerai quand ça sera officiel.
Ah, d'accord.
Ah,
c'est
là,
ça
reste. Ouais. Ça reste
c'est pour ça, tu veux pas en parler.
Oui, exactement.
Ah, ok, je comprends, mais ça t'intéresse quand même.
Moi, je parle que de nos infos, moi.
Ok, très bien. Ok.
10h56. Pas la rumeur.
Dans un instant, on revient dans les grandes gueules du sport pour parler du phénomène. Tiens, on va continuer de parler de basket. J'espère que tu vas pas t'en foutre. Wembanyama. Parce que les Américains s'en foutent pas. Ils sont fans du français. Ils sont prêts à regarder des Boulogne-Levallois, le Portel. Incroyable. C'est le bras de fer des GG et c'est dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.